Ce matin, on va passer quelques minutes autour d'un texte intitulé le Magnificat, en raison de la première phrase du texte dans la Septante, Mon âme magnifie l'Éternel. Ce sera le passage dans l'Évangile de Luc, les versets 46 à 55. On ne pourra pas tout voir ce matin. C'est pas possible, il faut une vie pour s'assurer et encore, pour comprendre la bonté, la générosité, l'amour de Dieu. Et parce qu'il y a deux aspects dans cette connaissance, il y a la connaissance théorique et la connaissance pratique. Il y a ce que je sais de Dieu et ce que j'ai expérimenté avec Dieu. Et comprenez le jeu, pas un pronom personnel, mais c'est un jeu généraliste. Car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Job rappelle qu'on n'y prend pas garde. Et on va essayer ce matin de prendre garde à la manière et à ce qu'il nous dit. On va regarder au travers de deux prismes, de deux témoins, deux personnes, un rédacteur, un écrivain et un témoin. L'un Luc, celui qui a écrit l'Évangile, et l'autre Marie. Pour prendre une image, c'est un peu comme si nous allons passer quelques minutes devant un coffret à bijoux. On va regarder le coffret avant d'ouvrir et de regarder la perle qui est à l'intérieur. Nous nous attarderons dans un premier temps sur les conditions de ces deux témoins-là. Qui étaient-ils? Quel était leur rôle? Quelle était la base, les bases de la société de cette époque, la connaissance qu'ils avaient de Dieu, quels étaient leurs objectifs. Les connaissant un peu mieux, on pourra comparer, voir les différences avec nous-mêmes, s'il y en a des similitudes, pour pouvoir nous recaler. Et dans un deuxième temps, nous regarderons les attributs de Dieu cités dans ce passage, et nous essaierons d'en comprendre les grandes lignes, et nous verrons aussi quelles incidences ils peuvent avoir dans nos vies. Enfin, la conclusion nous amènera à tirer quelques lignes pour notre vie à tous les jours avec notre Seigneur. Mais je vais demander à Guy, si possible, de prier, de remettre ces moments dans les mains du Seigneur.
Seigneur, nous voulons encore te rendre grâce pour ce privilège que nous avons de nous rassembler encore ce matin autour de ta personne, autour de ta parole. Seigneur, merci parce que nous avons cette joie de pouvoir glorifier ton nom maintenant. Nous te demandons d'ouvrir nos cœurs, Seigneur, qui ouvre aussi notre attention, notre esprit. Seigneur, que nous puissions être concentrés sur ce que nous pensons à cœur, de nous communiquer, Seigneur, et vraiment que nos cœurs soient perméables à tes enseignements. Sois vraiment encore béni dans nos vies. Amen.
Amen. Donc, l'Évangile de Luc, chapitre 1, les versets 46 à 55, je vous le propose dans la version du semeur. Alors Marie dit, « Mon âme chante la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon Sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. C'est pourquoi, désormais, à travers tous les temps, on m'appellera bienheureuse. Car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Et sa bonté s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le révèrent. Il est intervenu de toute sa puissance et il a dispersé les hommes dont le cœur était rempli d'orgueil. Il a précipité les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Oui, il a comblé de bien ceux qui sont affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Oui, il a pris en main la cause d'Israël. Il a témoigné sa bonté au peuple qui le sert, comme il l'avait promis à nos ancêtres, à Abraham et à ses descendants pour tous les temps. Quelques mots premiers pour Luc, l'écrivain. C'est un médecin. Il est grec. C'est le médecin bien-aimé, pour reprendre l'expression de Paul. Et ses écrits s'adressent plus particulièrement aux non-juifs. Il écrit l'Évangile et le second volume, qui est là que les apôtres, à un certain Théophile chrétien, qui aurait besoin d'être rassuré quant aux enseignements reçus. Et à la manière d'un scientifique, Luc va collecter les informations transmises, toutes les informations. Il est médecin, il parle d'une naissance miraculeuse. On sait de lui qu'il est, au travers des écrits qu'il a laissés, qu'il est intelligent, qu'il a reçu une éducation poussée, un peu à l'image de Paul. Il opère avec minutie. Le mot témoin oculaire, est un seul mot grec qui signifie voir pour soi-même. Il a donné autopsie. Luc n'est pas le témoin direct de Christ, mais il va interviewer pour son mandataire Théophile tous les témoins qui ont un rapport, qui ont eu un rapport avec Christ, et il pourra le retransmettre et écrire son texte. Il utilise dans son texte plus de termes médicaux que ne l'a fait Hippocrate, pourtant fondateur de la médecine. C'est le seul aussi qui relate les événements avant la naissance de Jésus. La tradition dit qu'il se met du point de vue de Marie pour relater les événements prénataux. Il va donc être la main de Marie lui permettant ainsi de laisser son témoignage. En quelques mots, il est minutieux, il recherche pour lui-même tout d'abord, puis pour Théophile, les renseignements à transmettre. On est assuré de la qualité de ses propos. Concernant Marie, on en sait un tout petit peu moins. C'est une jeune vierge dont la destinée semble toute tracée. À cette époque, le mariage est réalisé entre 13 et 16 ans. Elle est fiancée à Joseph, le charpentier. Ce qui signifie pour l'époque qu'elle est engagée juridiquement avant de consommer le mariage. Elle commence par être troublée par l'intervention de Gabriel. Au verset 29, il est écrit de l'évangile, troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. Et pour cause. Cela fait 430 ans que Dieu n'a pas parlé. Il ne s'est pas adressé à son peuple. Le dernier prophète s'appelle Malachie. Et il a laissé à la fin de son livre, au chapitre 4, suivant les versions, ça peut être aussi le verset 3-23, « Voici que je vous envoie à Élie, le prophète, avant que vienne le jour de Yahvé grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d'anathème. » Elle est quelque peu étonnée, on peut la comprendre. D'autant que l'ange lui annonce une naissance. Mais comment cela se peut-il? Je suis vierge. Imaginons un instant ce qui peut se passer dans sa tête. 4 siècles de silence divin. Des pères et des grands-pères qui ont dit « Mais non, Dieu n'a pas parlé aujourd'hui. » Et c'est la deuxième personne à laquelle Dieu s'adresse par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Un peu avant, c'était Zacharie, à qui Dieu avait annoncé la venue d'un fils. Alors qu'il était en âge avancé, et son épouse aussi, il est dit qu'ils auront un enfant. De plus, il faut aussi, pour l'époque, considérer que pour une femme, ne pas avoir d'enfant, c'était vraiment un déshonneur public abominable, insurmontable. Et dans le cas d'Élisabeth, cet enfant-là va pouvoir laver cet affront. Le texte nous dit qu'elle a trouvé grâce auprès du Seigneur. Pourquoi? Est-ce qu'elle était supérieure? Est-ce qu'elle était différente d'Élisabeth, par exemple? Non. Elle se considère elle-même avec la bassesse d'une servante. Ce qu'on peut lire au verset 48. Non seulement elle va enfanter, sans connaître d'homme, mais la promesse qui se porte sur l'enfant est qualifié de fils du Très-Haut, enfanté selon l'Esprit. Il aura le trône de David. Dans la mémoire des jeunes filles juives de l'époque, et même, je crois, aujourd'hui, chacune porte le vœu d'enfanter le Sauveur. Mais ce n'est pas ainsi nécessairement que Marie l'envisageait. D'être enceinte sans avoir consommé le mariage va l'exposer à la raillerie, à la moquerie, voire pire, la condamnation pour adultère. Joseph, son futur époux, propose même une séparation. Alors, rendons-nous compte un petit peu de ce qui peut se passer dans la tête de Marie. Elle pourrait prendre la grosse tête, d'un coup, le Seigneur lui dit qu'elle va avoir, qu'elle est un instrument dans ses mains un peu particulier. Penchons-nous sur son cantique. Il est bâti selon les règles de la poésie hébraïque, le parallélisme, l'expression d'une idée dans une phrase compartimentée, une première idée qui va affirmer quelque chose, et la deuxième qui va venir, la deuxième partie de la phrase, qui va venir renforcer, répéter un des aspects importants. Par exemple, le verset 51 nous dit « Il est intervenu de sa toute-puissance, la puissance de Dieu, et il a dispersé, la conséquence de la puissance, il a dispersé le cœur, les hommes dont le cœur était rempli d'orgueil. » Outre la structure purement juive, ces quelques versets sur lesquels nous nous penchons ont tous des références au texte ancien. Je n'ai pas voulu les lister. C'est un amalgame d'environ 25 citations, 25 textes différents. Elle était dans la véritable et bonne crainte de Dieu. Celle qui ressort dans l'expression du prophète Samuel dans son livre. Dans son premier livre, au chapitre 15, Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Elle était pieuse. Elle connaissait les Écritures. Elle connaissait les promesses de Dieu à son peuple. Et elle comprend ces paroles prononcées par l'ange Gabriel sont vraies. Elle va même se hâter d'aller voir sa cousine. Et alors qu'elle discute, nous dit le texte, Élisabeth va lui témoigner que son enfant Jean-Baptiste, qui a à peu près 5 mois, tressaille dans son sein. Leur destin est entrecroisé dans le plan de Dieu. Et c'est là que son âme exulte le Seigneur. Elle est remplie de foi. Elle est consciente de ce que Dieu fait pour elle. Elle ne bâtit pas des châteaux en Espagne, déclarant « Je suis la mère du Sauveur ». Elle ne se croit pas supérieure. Elle n'est pas équipée d'un quelconque laissez-passer divin. Non, elle est une parmi son peuple. Le verset 47 nous dit « Mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon Sauveur. » Elle a conscience d'avoir besoin d'être sauvée. Elle est pécheresse. Le verset 48 nous dit qu'elle affirme sa position d'humilité, il a jeté les yeux sur la bassesse de la servante. Elle n'a pas oublié, en confiant son témoignage, ce que Siméon lui a dit, et qu'on retrouve un peu plus loin au chapitre 2. Voici cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. L'idée de voir un peu quel était le cœur de ces personnes-là. Luc est minutieux n'est pas un témoin direct. Il recherche les informations pour lui-même d'abord, puis pour Théophile. Marie est pieuse. Elle craint Dieu. Elle est humble. Elle connaît la loi et les prophètes. Elle est obéissante. La question est, comment devons-nous disposer nos cœurs pour que des paroles de louange identiques montent de nos bouches? On va essayer de le détailler maintenant. Sous la plume de Luc, le fidèle écrivain, Marie s'est laissé complètement aller à retranscrire ce cantique. L'interview de Marie a eu lieu après la croix. Elle s'en est souvenue et la croix n'a pas altéré. La croix n'a pas altéré le témoignage de ce moment-là. Dans quel état sommes-nous quand nous voulons louer Dieu? Avons-nous, comme elle l'a, la contemplation, l'adoration, l'assurance de sa présence pour se rendre compte de ce qu'il fait pour nous, de ce qu'il veut accomplir pour nous? Ne devons-nous pas adopter la même posture de louange que celle de Marie, pourtant sous l'ancienne alliance? Est-ce que nous sommes en permanence à la recherche de la gloire de Dieu, pour qu'au moment opportun, au moment où il le décide, où nous prenions conscience de ce qu'il fait, nous puissions, nous aussi, exalter son nom? Au début du XXe siècle, un dénommé William Ramsay, un érudit étudiant, brillant, un grand sceptique de l'écriture, il a eu le temps de jeter un petit coup d'œil dessus. Et il a eu cette idée de démontrer, de par son érudition, que les textes sacrés n'étaient pas dignes de confiance, notamment les écrits de Luc, l'Évangile et les Actes des Apôtres, parce qu'il savait que les historiens avaient tendance à commettre des erreurs, on va dire embellir ce qu'ils trouvent. Il a entrepris donc de démontrer le mal fondé de ce qui était écrit. Il a beaucoup passé de temps à chercher. Il s'est déplacé en Asie, mais il n'a jamais pu atteindre son but. D'athée qu'il était, il devint chrétien. Témoignage de l'écriture, de la transformation qui peut s'opérer. Dans ce passage, on va déceler les attributs de Dieu. On parle d'attributs parce que le mot qualité est plutôt recevable pour un homme. Alors, dans la définition, qualité divine s'appelle attribut. Les cinq attributs que nous pouvons remarquez, la puissance, versets 51-52. Il est intervenu de sa toute-puissance et il a dispersé les hommes dont le cœur était rempli d'orgueil. La miséricorde, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. La sainteté, son nom est saint. La grâce, au verset 48. La fidélité, au verset 54 et 55. C'est dans la connaissance de Dieu qu'on peut exprimer ces mêmes choses. Et est-ce qu'il vous arrive, pendant votre culte personnel, au détour d'un verset, d'une prière, d'une pensée, que vous sentiez soudain votre cœur comme une coupe se remplir petit à petit et que d'un coup vous ne puissiez plus retenir la reconnaissance qui monte vers Dieu. Je dois vous l'avouer, ça m'arrive, cela ne m'arrive que quelques fois. Mais chaque fois, il y a une telle intensité, une telle présence, qu'on arrive à la même chose que ce que Marie exprimait. Comment être aidé? Parce que ça ne vient pas de nous. Paul, dans l'Épître aux Romains, nous dit « De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » La même idée est reprise dans l'Épître aux Corinthiens à deux endroits différents. Comprenons que si nous voulons exprimer des louanges, si nous voulons exprimer les attributs de Dieu, il nous faut connaître ce qu'il a préparé pour nous. On va survoler les quatre premiers attributs, parce qu'ils sont l'objet d'études. Je dirais simplement, ils sont l'objet d'études et je rappellerai les dates pour ceux qui veulent les noter. La puissance de Dieu, le terme utilisé aussi omnipotence. Marie nous dit, il est intervenu de sa toute-puissance et il a dispersé les hommes dont le cœur était rempli d'orgueil. Il a précipité les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. C'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Dans le livre des Chroniques, on peut lire ce que vous avez, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout. Et c'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toute chose. Il peut tout faire en accord avec son caractère. Je vous invite, jeudi 26 septembre prochain, de passer une paire d'heures pour connaître, pour entendre ce qu'est la puissance de Dieu. Le 26 novembre prochain ici, libérez-vous une paire d'heures. C'est vraiment indispensable. La miséricorde. Au psaume 103, 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. C'est dans les moments les plus difficiles qu'elle se manifeste pour ceux qui craignent Dieu. En l'occurrence, Marie est au bénéfice de celle-ci, car elle ne sera pas stérile. Et elle a un témoin de cette miséricorde en la personne d'Élisabeth. L'étude est programmée pour le 15 décembre. La sainteté de Dieu. Son nom est saint. Dans le livre des Lévitiques, nous avons « Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. » La naissance miraculeuse de Christ par l'Esprit implique sa sainteté. Non conçu par l'homme. Le texte ne dit pas si Marie a eu conscience de cet état-là, mais en l'occurrence, dans son cantique, elle exprime son nom est saint. La grâce de Dieu, car elle a bien voulu, nous dit Marie, il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante, c'est pourquoi désormais, à travers tous les temps, on m'appellera bienheureuse. C'est dans le livre de l'Exode qu'on voit apparaître cette grâce. Et l'Éternel passa devant eux et s'écria l'Éternel Dieu miséricordieux, pardon, et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Alors que le peuple venait de se constituer un veau d'or, Dieu redonne les tablettes à Moïse. C'est de là qui extrait ce passage. Avant de continuer, On peut remarquer que tout vient de Dieu. Sans que Marie ne demande quoi que ce soit. Non pas qu'elle soit moins bien, qu'elle soit dans un temps ancien. Non, mais Dieu fait grâce à qui il veut et miséricorde à qui il souhaite. La seule condition pour être au bénéfice de ses attributs, c'est de le connaître, lui, de profiter de sa présence, comme Marie a dû le vivre pendant ces années-là. Elle a d'autant plus vécu que l'issue de son fils était connue. Cette épée annoncée par Siméon. La question est, ne voulons-nous pas bénéficier des mêmes bénédictions? Ne voulons-nous pas goûter comme Dieu est bon? De croire en celui qu'il a envoyé. Nous sommes dans une position un tout petit peu plus privilégiée par rapport au temps de ce texte-là, c'est que nous avons Christ. Tous ces aspects de Dieu ont été révélés aux hommes par Jésus-Christ. C'est Dieu fait homme qui a révélé le Père. Jésus n'a-t-il pas dit, qui m'a vu a vu le Père? Il a réalisé tous ses attributs. Pendant son ministère, la puissance par la résurrection de quelques-uns, la guérison d'une longue quantité, la sainteté par sa conception, la grâce pour ceux qui venaient vers lui repentants. Il a pris sur lui, nous dit le livre d'Ésaïe, le châtiment qui donne la paix. Dieu a fait la démonstration de tout son être, de toutes ses pensées, en nous réconciliant avec lui par Jésus-Christ. C'est par lui, Christ, que nous avons une idée, de ce que Dieu peut être. Connaissez-vous un dénommé Bernard Gilpin? Peut-être que quelques-uns le connaissent. C'est un chrétien anglais. David n'est pas là. C'est un chrétien anglais qui a connu les affres de la persécution sous le règne de Marie Tudor. Reine d'Angleterre, surnommée Marie la Sanglante, tant elle haïssait les protestants et tant elle voulait les brûler. Notre frère a non seulement connu les affres de la persécution, mais aussi la prison, très fortement. Et il ne se lassait pas de répéter sans cesse ce verset, « Toute chose, au pluriel, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Au point que les geôliers, les matons, pour reprendre un terme moderne, n'arrêtaient pas de se moquer de lui, le bousculer, surtout quand vint son tour pour aller au bûcher. Bousculer peut-être un peu trop fort, il tombe, il se casse la jambe. Ça rend l'exécution impossible. Retour dans la cellule. Je vous laisse imaginer les colibés des gens qu'il gardait. Pourtant, quelque temps plus tard, Marie Tudor meurt. Elle est remplacée par Élisabeth Ier, nous sommes en 1558. L'une des premières actions de cette nouvelle reine est d'arrêter la persécution et de libérer les prisonniers protestants. Ce n'est pas un verset en vain. Il résume ce que Marie exprime concernant Dieu, puissant, miséricordieux, plein de grâce pour ses enfants. Nous ne sommes pas dispensés d'épreuves, mais par la grâce de Dieu, nous les traversons différemment. Le témoignage de cet homme, Bernard Gilpin, nous rappelle aussi, tout comme l'a fait Marie, que nous sommes engagés à nous attacher à la parole de Dieu. Car justement, lui est fidèle. C'est le dernier attribut. Dans le texte de Marie, il est exprimé au verset 54 et 55. Oui, il a pris en main la cause d'Israël. Il a témoigné sa bonté au peuple qui le sert, comme il avait promis à nos ancêtres, à Abraham et à ses descendants pour tous les temps. La fidélité est un attribut partagé avec Dieu. Dans Luc, au chapitre 19, verset 17, il est écrit, il lui dit, c'est bien bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement du civil. C'est partagé avec l'être humain, et en plus, il y a une récompense. Nous pouvons, comme Marie, nous appuyer sur cette promesse faite à Abraham, en livre de Deutéronome, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Mais qu'est-ce que la fidélité? Selon une encyclopédie, ce peut être source de la foi donnée, respect des engagements pris, je cite le dictionnaire, hein, attachement à une foi religieuse, qualité d'une personne au service d'une autre, qui s'acquitte de ses fonctions avec dévouement et zèle, respect de la foi conjugale, ou autrement dit, par extension, respect de l'engagement pris envers la personne aimée. Qu'en est-il pour Dieu? Dans le texte, dans la Bible, il semble que fidélité aille avec foi, et ou vérité. Cette idée de foi, de fidélité, et le cœur de la pensée biblique, au cœur de la relation entre Dieu et son peuple. Et d'ailleurs, on le mesure par les métaphores utilisées qui concernent la relation entre un mari et sa femme, entre un père et son fils, entre un roi et son peuple, ou bien entre les deux parties d'une alliance qui signent un contrat. Nous pouvons regarder, justement, dans le livre de la Genèse, au chapitre 15, Abraham crut à l'Éternel qui lui compta comme justice. Juste avant, Dieu invite Abraham à contempler les cieux et à mesurer le nombre d'étoiles qu'il pouvait voir pour lui donner une idée quelle serait sa descendance. Comme le dit l'apôtre Paul, sa descendance. Et simplement parce qu'il crut, cela lui fut compté comme justice. Et donc on peut considérer que Dieu s'engage dans cette parole-là, cette postérité. Mais est-ce que la fidélité de Dieu implique la nôtre? Abraham, quelque temps après, n'a pas été la preuve extraordinaire de la fidélité de Dieu. Non, pas du tout, non. Non. Devant les Égyptiens, il a pas menti, mais maquillé un peu la vérité. Pourtant, Dieu, lui, est fidèle aux engagements qu'il a pris, malgré les vicissitudes de son peuple. C'est pour ça aussi qu'on associe dans certains commentaires l'idée de vérité à propos de la parole de Dieu. Il est fidèle à sa parole et sa parole s'accomplira. C'est ce qu'on peut lire. Sache donc que l'Éternel, que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. On peut penser aussi que la fidélité de Dieu appelle comme réponse la fidélité de son peuple. C'est partiellement vrai avec le roi David. Ses actions furent bénies, le royaume a eu une expansion absolument fantastique qu'il n'a plus connue à sa suite. Pourtant, dans le psaume 51, au verset 8, alors que David s'adresse à Dieu, il dit « Mais tu prends plaisir à la loyauté dans le fond du cœur, au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. » Implicitement, David avoue qu'il n'est pas 100% fidèle. La question reste posée, comment Dieu peut-il rester fidèle à un peuple qui ne l'est pas? à des hommes qui se détournent de leurs engagements. Nous avons une promesse dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 26 et au verset 26. Il est écrit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un souffle nouveau. J'ôterai de votre cœur, de votre chair, le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Au temps de Jésus, le peuple était tout autant infidèle. Lui-même traite ses contemporains d'infidèles, ses disciples. Marc nous relate cette parole, il leur dit « Génération sans foi, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je » Est-ce que la nouvelle alliance affirme toujours la fidélité de Dieu? Paul, l'apôtre, aborde la question et porte la réponse. Dans son épître aux Romains, il écrit au chapitre 3, les versets 3 à 4, qui nous disent « Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu ?» Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit « Afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. » Autrement dit, dans un couple, pour reprendre une des métaphores, ce n'est pas parce que l'un des deux commet l'adultère que les deux le sont. Seul celui qui commet l'adultère est infidèle, l'autre reste fidèle. Et ça ne justifie en rien que celui qui soit fidèle change. C'est ce que nous dit Paul. Il en est de même pour Dieu. Ce n'est pas parce que ses enfants, son peuple a été infidèle, que lui l'est, bien au contraire. Bien au contraire. Par l'incarnation de Jésus, cette inéquation, cette inégalité devient équation-égalité. En Jésus, les deux parties de l'alliance respectent chacun sa part. Jésus, pour les hommes, il était pleinement homme par son incarnation. Et Dieu, pour sa part, car Jésus a fait la démonstration de l'obéissance. Alors, et ce sera ma conclusion, Marie, dans l'expression de son cantique, ne livre pas toutes les inspirations. Peut-être avait-elle en tête le passage du livre d'Ésaïe au chapitre 7 qui indique qu'une jeune femme non mariée, c'est pas le terme technique pour vierge, mais une jeune femme non mariée sera enceinte et qui portera le nom d'Emmanuel. En l'occurrence, elle était suffisamment empreinte des textes pour se laisser conduire par l'Esprit dans la louange. À combien plus nous, qui sommes sauvés par grâce, pouvons-nous encore plus chercher à le connaître et à le suivre? Oui, Dieu est fidèle. Je vous propose de reprendre à notre compte ce que Paul écrit dans l'Épître aux Philippiens et que ça puisse nous conduire tout au long de la semaine et plus. Paul nous dit « Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. » Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne cherchant pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition de serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrant qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place, et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux et sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen.
Amen.
Dieu est fidèle et nous avons là l'une des preuves de sa fidélité. Amen.